Bonjour chers auditeurs, de retour à l'émission Réussir sa vie. Au micro c'est Guy et j'ai le grand plaisir d'accueillir Jean-Pierre Bouet aujourd'hui. Et la raison pour laquelle j'ai invité Jean-Pierre, c'est qu'à chaque fois que je m'assieds avec Jean-Pierre pour un café ou autre, il a toujours des choses fort intéressantes à raconter. J'ai l'impression que cette vie-là, il en a vécu plusieurs à la fois. Alors je pensais que c'était important d'inviter Jean-Pierre pour qu'il vienne partager tout ce qu'il a vécu et sa manière d'approcher la vie. Alors, Jean-Pierre, bienvenue.
Merci Guy de me recevoir, c'est un grand plaisir.
Qui es-tu ?
Bah, qui je suis ? Je suis je suis un homme déjà. Et je suis ici au Canada depuis quand même assez longtemps. J'ai fait beaucoup de choses dans ma vie et j'en fais encore beaucoup. Je suis particulièrement occupé avec des choses qui m'intéressent beaucoup, qui m'ont toujours intéressé, comme bien sûr le sport. J'ai été en France inspecteur principal des sports, comme la littérature, la musique, la cuisine bien évidemment. Donc je fais des choses qui sont à l'heure actuelle prenantes. Mais c'est des choses choisies.
Inclus 5 enfants et 8 petits-enfants, si je peux me permettre.
Voilà, on peut toujours parler de productivité, mais oui.
Bravo, félicitations.
Voilà, non, je crois que si c'était à refaire, et si je pouvais, j'en aurais plus.
Merveilleux. Alors dis-moi, qu'est-ce qui te tient occupé en ce moment ?
Bien, en ce moment, j'ai beaucoup de choses qui me tiennent occupé, en particulier le football.
Ouais.
Qu'on appelle ici le soccer. On a créé une association de sportive qui s'appelle l'Association sportive des francophones du Grand Toronto, dont la première et pour l'instant unique section est la section football qu'on appelle ici soccer. Cette section est jeune, elle est née il y a un an à peu près. On a pas mal de joueurs qui nous ont rejoints, mais je lance un appel ici, comme je l'ai lancé sur l'onde il y a quelques temps, un appel pour que de jeunes footballeurs francophones, pas seulement francophiles, viennent nous rejoindre.
Merveilleux, c'est une belle invitation, surtout que je pense que c'est le potentiel est incroyable pour l'Amérique du Nord.
C'est, je crois que personne ne s'en rend compte. Oui. On est à l'heure actuelle un peu victime des très mauvais résultats de l'équipe nationale canadienne hommes, pas les femmes. Les femmes sont à un très bon niveau, mais pas les hommes. Les hommes n'ont pas été en Coupe du Monde depuis 1986. Alors que il y a énormément de joueurs du fait d'une immigration. Notamment des joueurs francophones, oui. Notamment des joueurs francophones qui viennent à peu près de tous les pays, de tous les continents. Et c'est vraiment très dommage qu'on n'arrive pas à sortir une grande équipe canadienne.
Mm-hmm. Bien, écoute, j'espère qu'ils vont t'appeler bientôt comme entraîneur. Alors, je demande à mes invités de choisir des chansons, des morceaux de musique. Alors, tu as choisi, première chanson, Myriam Makeba, Patapata. Dis-moi, qu'est-ce que ça évoque ?
Ça évoque beaucoup de choses. Ça évoque d'abord une femme très forte. Une femme exceptionnelle, non seulement par la voix, mais par son désir de justice, son désir d'absolu, ses luttes. Elle a été aux côtés de Mandela pendant très longtemps. Elle a fait de la prison. Et quand elle est morte, elle était en train de défendre quelqu'un à son âge.
Wow.
En dehors du fait que c'est une voix tout à fait remarquable, j'ai voulu choisir cette chanson parce que je voulais montrer que beaucoup de femmes... J'ai beaucoup d'attachement pour les femmes en général, si vous voulez, le caractère des femmes, montrer que c'est une femme exceptionnelle dans la lutte pour la justice.
Merci de cette belle opportunité de célébrer Myriam Makeba. À tout de suite. De retour avec Jean-Pierre Bouet. Jean-Pierre, j'aimerais te poser une question. Comment es-tu passé de la fonction publique à l'entreprise ?
Je l'ai dit tout à l'heure, ce sont les circonstances familiales qui m'ont amené à rejoindre une entreprise où travaillait mon frère aîné, qui en était le président, et mon frère cadet. Une entreprise spécialisée dans la fabrication de grands équipements de cuisine professionnelle et de cuisine pour les hôpitaux. C'était une entreprise de très très haut niveau et j'ai appris. Donc je suis passé dans cette entreprise relativement facilement parce que je connaissais l'entreprise déjà de l'intérieur par la famille. Mais je n'avais jamais vécu le monde de l'entreprise de manière permanente. Et ça a été pour moi une grande découverte, une découverte qui m'a donné beaucoup de satisfaction, qui m'a beaucoup changé de la fonction publique, qui est un exercice dans la fonction publique où j'ai vraiment beaucoup appris aussi, j'ai travaillé avec beaucoup de passion. Mais c'était un monde différent. Et j'en profite pour dire que la grande différence que je vois entre l'Amérique du Nord et l'Europe, et la France en particulier, c'est que, encore dans l'esprit français, il y a cette idée que, finalement, une moitié de la France pense que si tout était public, ben, ce serait pas plus mal. Et l'autre moitié pense que s'il n'y avait pas de public, ce serait encore mieux. Alors qu'en Amérique du Nord, ce sont deux secteurs qui sont beaucoup plus complémentaires. L'un et l'autre savent qu'ils ne peuvent pas vivre l'un sans l'autre. Et il y a une sorte de compréhension mutuelle qui malheureusement n'existe pas toujours dans le pays d'où je suis originaire, qui est la France. Et pour moi, passer de la fonction publique à l'entreprise a été d'une très très grande richesse. Ça n'a pas toujours été facile, parce qu'on a des facilités dans la fonction publique qu'on n'a pas dans le secteur privé, mais ça a été pour moi une grande source d'enrichissement.
Tu m'as dit un jour que les technologies qui sont utilisées au Canada dans les cuisines industrielles ont besoin d'être modernisées.
Oui. Oui.
Il y a un retard à rattraper sur le plan des techniques, des technologies.
Oui. Il y a un retard considérable. On en est encore à l'avant-guerre. Je ne dis pas la Première Guerre mondiale, mais,
non.
mais la deuxième.
C'est ça.
C'est sûr.
Je pense que les métiers de la restauration méritent d'être valorisés en Amérique du Nord.
Oui, sur bien des plans, sur le plan de l'équipement déjà.
Ouais.
Il y a un retard absolument considérable. Quand je suis arrivé ici, j'ai amené les premiers appareils à induction magnétique. Ouais. C'est quoi ces appareils? Ce sont des appareils qui fonctionnent sur la base d'un champ magnétique. Donc le dessus est froid, reste froid. La casserole qui doit être, elle, ferritique, donc attirer le champ magnétique, la casserole que l'on pose sur cette plaque de verre, reçoit un champ magnétique qui va alimenter les molécules de la casserole, laquelle va chauffer par conduction ce qu'il y a à l'intérieur. Le résultat, c'est on peut bouillir un litre d'eau en une minute. Ça va très vite, c'est sécuritaire, c'est fiable, c'est agréable à travailler, et les gens ont découvert ça ici comme si c'était si ça venait de Mars, quoi.
Oui. Alors un jour tu as été invité à faire une démonstration.
Oui.
Alors tu peux... Je vais chercher assez loin là, mais
oui. Non, c'est exact. Un de mes premiers très gros clients a été le Culinary Institute of America, qui est une très grosse entreprise d'enseignement de l'hôtellerie et de la restauration, qui font beaucoup de cuisiniers. Bocuse a déjà enseigné plusieurs fois. Donc je les ai entièrement équipés. Toutes les installations qui se trouvent près de San Francisco, à Napa Valley, ont été équipées par mon entreprise à l'époque. Et j'ai dû faire une démonstration de ce qu'est l'induction magnétique. Alors j'étais devant l'amphithéâtre où il y avait à peu près 200 personnes, où je présentais les différents matériels qu'on allait utiliser. Et quand est arrivée l'induction, j'ai essayé de calmer un peu tout le monde, parce qu'évidemment quand on est 200 on commence à bavarder un peu ici et là. Donc je ne suis pas parvenu à calmer l'audience, mais j'ai trouvé un truc. Je me suis dit, bon, si je fais bouillir de l'eau sur cet appareil, on va voir de la vapeur et c'est tout ce qu'on va voir. Par contre, il m'est venu une idée géniale pour attirer l'attention. J'ai enlevé ma veste, je l'ai posée sur cet appareil à induction où il n'y a pas de chaleur. J'ai posé une poêle sur ma veste et j'ai cuit 2 œufs au plat. Donc j'ai eu 200 personnes qui étaient dressées. Certaines se sont précipitées immédiatement pour voir si ma veste était brûlée ou pas.
Ouais.
Et c'est après coup que je leur ai expliqué les raisons pour lesquelles ça n'était pas brûlé, les raisons pour lesquelles ça cuisait même sur une veste, et que ça ne pouvait même cuire sans contact direct avec la plaque de verre. Depuis, cet appareil a connu un grand succès et maintenant on arrive à voir des vulgarisations de l'induction magnétique à des prix tout à fait intéressants et que je recommande beaucoup parce que pour les enfants en particulier, c'est très 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 sécuritaire.
Très bien. Mais au moins tu as eu leur attention.
Oui.
Mais on en revient toujours au sport. Le sport tient une grande place dans ta vie et tu as fait quand même un parcours extraordinaire avec le sport.
Oui, le goût du sport m'est venu tout jeune, hein, tout jeune. À mon premier match de football, c'était à Nice où je suis né. On habitait à Nice avec mes parents à l'époque. Ensuite, on a déménagé. Mon père voulait nous apprendre à travailler. Il nous a dit, bon, c'est pas à Nice qu'on apprend à travailler. Donc, on est, comme on dit, monté à Paris. Et j'ai vu mon premier match de football à l'OGCN de Nice. C'était à l'époque le Stade Duré. Et il y a eu un déclic. J'étais tout jeune, je dois avoir quoi, 5-6 ans peut-être. Il y a eu un déclic. J'ai vu ces joueurs, j'ai vu le ballon, j'ai... Et je suis rentré chez moi, j'ai tout de suite pris un ballon et j'ai tapé dedans, j'ai voulu jouer, j'ai voulu les imiter, et ce ballon, je l'ai conservé toute ma vie.
Et encore.
Et encore. Bon, maintenant, les gens, malheureusement, ne suivent pas aussi vite que l'esprit. Mais,
non, mais.
Mais encore, je suis très impliqué dans le franco-foot, dans le sport en général, mais surtout dans le football où on essaie de monter des équipes qui vont, à mon avis, avoir beaucoup de succès et qui ont rencontré déjà beaucoup de succès puisque l'équipe franco-foot senior a gagné sa ligue, puisque les jeunes ont gagné la ligue et ont gagné leur ligue et la coupe, c'était soit en hiver soit en été, donc tout ça est très bien. Et en plus on est avec les autorités françaises et les autorités sportives canadiennes, en particulier l'organisation du soccer en Ontario. On est en train de mettre sur pied le premier tournoi international de football qui aura lieu l'année prochaine, en 2017.
Wow.
Qui sera tournoi francophone. Pourquoi francophone? Parce qu'on aura au moins deux équipes jeunes issues de clubs professionnels qui n'ont pas encore été choisis, mais ce sera une surprise, on les annoncera plus tard, mais ce seront des clubs de première division au moins. Voilà.
Je sais que tu as un grand sens de la modestie, mais je pense que tu es un grand catalyseur de tout ça.
Merci de bien vouloir me le dire.
Tu as choisi comme troisième chanson Le Sud de Nino Ferrer.
Oui, parce que par rapport à aux autres chansons qui peuvent avoir un message d'une certaine manière ou auquel je prête moi-même un message, celle-ci est intemporelle. Nino Ferrer est un peu anachronique par rapport à son époque. Il a eu des chansons qui étaient, disons, très moyennes, mais il a eu celle-ci qui décrit une atmosphère. Et c'est surtout l'atmosphère qui est dans cette chanson qui est une invitation à la rêverie, une invitation au soleil, une invitation peut-être à la sieste aussi. Mais si on remarque la fin, c'est aussi une chanson où il y a un fatalisme qui est assez lourd, assez pesant, puisque on parle de la guerre inévitable, sûrement. Les guerres sont difficiles à éviter, mais je crois qu'il faut tout faire pour les éviter.
Merci Jean-Pierre. Le Sud, Nino Ferrer.
Qui ressemble à la Louisiane, à l'Italie. Il y a du linge étendu sur la terrasse, et c'est joli. On dirait le sud, le temps du et la vie sûrement plus d'un million d'années.
toujours en été. Il y a plein d'enfants qui se roulent sur la pelouse. Il y a plein de chiens. Il y a même un chat, une tortue, des poissons rouges. Il ne manque rien. On dirait le sud. Le temps dure longtemps. Et la vie surprend. Plus d'un million d'années.
Retour avec notre homme orchestre, Jean-Pierre Bouet. Jean-Pierre, et l'art, la musique, la littérature.
Ben, ça m'a toujours suivi. Hein. Je lis sûrement moins qu'avant parce que j'ai l'impression d'avoir trop lu. Mais j'apprécie toutes les formes d'art et j'apprécie beaucoup la musique. J'aide en particulier un trio qui s'appelle le Trio Siba, qui est un trio classique de très haut niveau. Avec une formation composée d'un violoniste, d'un pianiste et d'une contrebassiste, tous issus de conservatoires en Russie, que ce soit Minsk, Moscou ou Odessa, qui est un très très bon niveau. Et je suis heureux de pouvoir les aider par les connaissances que j'ai à se produire ici ou là. Je crois que dans les prochaines semaines, il y aura un petit concert de leur part à l'Alliance française. Et j'inviterai par la voix de Choc FM la plupart des gens qui aiment la musique à se joindre à ce concert.
Super, merci. Mais j'ai l'impression que dans tout ça, tu aurais aimé être un artiste.
c'est pas parce que j'ai choisi la chanson, la prochaine chanson, qui vient de Starmania, oui. Mais bon, je crois que dans toute personne, il y a un côté artiste, je veux dire, d'abord parce que nous les humains, on est sensibles à l'art, ce qui peut être une voie directe vers Dieu, j'en sais rien, mais c'est quelque chose d'inexplicable. L'émotion qu'on peut avoir devant un tableau, je veux dire, ça peut pas s'expliquer par la chimie, ça s'explique par quoi, je veux dire, il y a presque une métaphysique là-dessus. Donc, je crois que tout le monde peut être à une part d'artiste en soi. Moi, oui, j'aime bien. Oui, j'aime bien. J'aime bien. J'ai une fille d'ailleurs qui est comédienne en France. Qui a réussi ce tour de force à allier une vie de famille avec 3 enfants et être au théâtre régulièrement, d'en avoir fait un métier et de pouvoir en vivre, ce qui est assez rare.
Oui. Une vie sans art est une vie gâchée. Ça vient d'un ami photographe et je crois vraiment que c'est vrai.
Oui, 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 je le crois aussi.
Alors, comme prochaine chanson, bien sûr, le blues du businessman. Donc, avec Pierre Lapointe.
Oui, je l'ai aussi choisi cette chanson, non pas pour les célèbres. Je l'ai aussi choisi parce que, effectivement, il n'y a rien de pire, je crois, que de faire un métier, d'exercer un métier où on n'est pas vraiment soi-même. Ça existe, c'est vrai. Il y a des métiers où c'est plus difficile que d'autres à se réaliser, comme on dit. Ouais. Mais partout où je suis passé, j'ai toujours trouvé quelque chose d'intéressant. Et cette chanson prend pour base la dichotomie qu'il y a entre l'artiste dans le businessman et le businessman lui-même.
Parfait, le blues du businessman, Pierre Lapointe. Allons-y.
J'ai du succès dans mes affaires, j'ai du succès dans mes amours, je change souvent de secrétaire. J'ai mon bureau en haut d'une tour, d'où je vois la ville à l'envers, d'où je contrôle mon univers. Je passe la moitié de ma vie en l'air, entre New York et Singapour, je voyage toujours en première. J'ai ma résidence secondaire dans tous les Hilton de la terre. Je peux pas supporter la misère. Au moins es-tu heureux? Je suis pas heureux, mais j'en ai l'air. J'ai perdu le sens de l'humour depuis que j'ai le sens des affaires. J'ai réussi et j'en suis fier. Au fond, je n'ai qu'un seul regret. Je ne sais pas ce que j'aurais voulu faire. Qu'est-ce que tu veux, mon vieux? Dans la vie, on fait ce qu'on peut, pas ce qu'on veut.
J'aurais voulu être un artiste pour pouvoir faire mon numéro. Quand l'avion se pose sur la piste à Rotterdam ou à Rio,
j'aurais voulu être un chanteur. De peau, et pour pouvoir me trouver beau,
un grand écran en couleur. Pour pouvoir dire pourquoi j'existe.
De retour avec Jean-Pierre Bouet. Jean-Pierre, il paraît que tu aimes bien les fables de La Fontaine.
Oui, c'est exact. Oui.
Est-ce que tu pourrais nous en réciter une? L'humour est important pour toi, j'ai l'impression, hein.
Oui, beaucoup, mais là c'est une fable, celle que j'ai choisie, c'est une fable qui est une fable assez courte, qui est une fable qui est un peu un petit hymne à la liberté. Hein. Ça s'appelle Le loup et le chien. Alors je vais essayer de la réciter, hein, et puis tu me diras si c'est correct ou pas. Un loup n'avait que les os et la peau, tant les chiens faisaient bonne garde. Ce loup rencontre un dogue aussi puissant que beau, gras, poli, qui s'était fourvoyé par mégarde. L'attaquer, le mettre en quartier, Sire Loup lui fait volontiers. Mais il fallait livrer bataille, et le matin était de taille à se défendre hardiment. Le loup donc l'aborde humblement, entre en propos et lui fait compliment sur son embonpoint qu'il admire. « Il ne tiendra qu'à vous, beau sire, d'être aussi gras que moi, lui répartit le chien. Quittez les bois, vous ferez bien, vos pareils y sont misérables. Cancre, air, pauvre diable, dont la condition est de mourir de faim. Car quoi ? Rien d'assuré. Point de franche lipée, tout à la pointe de l'épée. Allez, suivez-moi, vous aurez un bien meilleur destin. Et que me faudra-t-il faire ? Bon, presque rien. Donner la chasse aux gens portant bâtons, mendiants, flatter ceux du logis, à son maître complaire. Moyennant quoi, votre salaire sera force relief de toutes les façons. Eau de poulet, eau de pigeon, sans parler de maintes caresses. Le loup déjà se forge une félicité qui le fait pleurer de tendresse. Chemin faisant, il vit le cou du chien pelé. Qu'est-ce cela ? Lui dit-il. Bon, peu de choses. Mais encore, le collier dont je suis attaché de ce que vous voyez peut être la cause. Attaché, dit le loup, mais vous ne courez donc pas où vous voulez ? Bon, pas toujours, mais qu'importe. Il importe si bien que de tous vos discours, je ne veux en aucune sorte. Et ne voudrait pas même à ce prix un trésor. Ceci dit, Maître Loup s'enfuit et il court encore.
Merveilleux. Est-ce qu'on peut rire de tout, Jean-Pierre ?
Je ne crois pas.
Non.
Je crois qu'il y a des limites. Tout ce qui porte atteinte à la vie d'une personne, à la vie en général, de manière grave, intentionnelle, méchante, sarcastique, je pense que ça n'est plus drôle. Je pense qu'il y a un moment où il faut savoir quelle est la limite. Il y a eu une polémique à propos de Dieudonné, qui est par ailleurs un humoriste absolument extraordinaire, mais qui a complètement dérapé. Et bon, je crois que il doit être lui-même conscient de ses limites. Donc la réponse est, à mon avis, non, on ne peut pas rire de tout.
Non. Donc avec le recul et l'expérience de la vie, bien, bien garnie, j'allais dire, quel regard portes-tu sur la vie en général? As-tu des conseils?
Mais je porte un regard optimiste. Optimiste. Il faut, je crois, autant que possible, garder, même dans les moments les plus difficiles, il faut garder l'espoir. Il faut garder l'optimisme. Il faut regarder la vie dans ce qu'elle peut encore apporter. C'est tout ce qu'on connaît, la vie. Après, on ne sait pas.
Oui, absolument. Donc, pour enchaîner, tu as choisi Avec le temps.
Oui, j'ai choisi Avec le temps, et je l'ai choisi d'une artiste qui est une jeune artiste que j'ai écoutée récemment. Toutes les interprétations de cette merveilleuse chanson de Léo Ferré que j'ai entendue auparavant n'étaient pas bonnes. Mais cette jeune chanteuse ontarienne, qui a 20 ans, qui s'est produite récemment à l'Alliance française en concert, a été tout à fait étonnante et... ça me fait vraiment très plaisir pour elle de pouvoir la faire écouter aux auditeurs.
Donc il s'agit de Céleste Lévy, n'est-ce pas?
Céleste Lévy.
Donc Avec le temps, Céleste Lévy.
Avec le temps, avec le temps va, tout s'en va, on oublie le visage. Et l'on oublie la voix, le cœur quand ça va plus, c'est pas la peine d'aller chercher plus loin, faut laisser faire, et c'est très bien. Avec le temps, avec le temps va tout s'en va, l'autre con. On cherchait sous la pluie l'autre qu'on devinait au détour d'un regard entre les mots, entre les lignes et sous le phare d'un serment maquillé qui s'en va faire sa nuit avec le temps. Avec le temps, avec le temps va, tout s'en va, même les plus chouettes souvenirs, ça t'a une de ces gueules à la galerie, je farfouille dans les rayons de la mort le samedi soir quand la tendresse s'en va toute seule. Avec le temps, avec le temps va, tout s'en va, l'autre à qui l'on croyait pour un rhume, pour un rien, l'autre à qui l'on donnait du vent et des bijoux pour qu'il en eût vendu son âme pour qu'elle. Devant toi l'on se traînait comme traînent les chiens. Avec le temps va, tout va bien. Avec le temps, avec le temps va, tout s'en va, on oublie les passions et on oublie les voix qui vous disaient tout bas les mots des pauvres gens. Ne rentre pas trop tard, surtout ne prend pas foi. Les années perdues. Alors vraiment, avec le temps, on n'aime plus.
Alors de retour avec Jean-Pierre Bouet pour la dernière partie de cette émission. Et comme d'habitude dans cette émission, c'est le questionnaire de Bernard Pivot. Jean-Pierre, votre mot préféré?
J'ai beaucoup hésité, j'hésite toujours, mais je pense que mon choix est fait. Je crois que mon mot préféré, c'est espérance.
Le mot que vous détestez?
Le mot que je déteste, que je hais, c'est la haine.
Ah, votre drogue favorite.
Ça dépend ce qu'on appelle par drogue. Si vous pensez à certaines substances qui vous font prendre pour un oiseau qui s'envole du 15e étage, non. Je n'ai aucune drogue spéciale. Je n'ai jamais consommé de drogue. Je n'ai jamais consommé de marijuana. Si c'est au sens figuré, je dirais le cinéma.
Le son, le bruit que vous aimez?
La mer.
Le son, le bruit que vous détestez?
Une porte qui claque.
Votre juron, gros mot ou blasphème favori?
Alors là, je voudrais faire une petite digression parce que j'ai quelque chose à vous proposer. C'est mon gros mot préféré, il est très simple, hein, c'est merde. Mmh. Merde. Mais, et si vous le permettez, la raison pour laquelle j'ai choisi merde, c'est parce que c'est courant, c'est pas méchant, et surtout ça peut se décliner. Vous avez le merde spontané, merde. Vous avez le merde résigné, oh merde. Vous avez le merde triste, merde, écoute quoi. Vous avez le merde énervé, merde, 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 merde. Vous avez le merde qui met fin à une conversation. Tu sais quoi? Merde. Et il y a le merde, il y en a marre. Et puis merde. Alors c'est comme ce petit garçon à qui sa mère avait interdit de dire merde, qui promet à sa mère de ne plus jamais dire merde, qui sort dans la rue, qui marche une crotte de chien, qui fait merde. Oh merde. Oh puis merde.
Ça devient de la grammaire, là, c'est de la ponctuation. Ça. Voilà. Un homme ou une femme pour illustrer un nouveau billet de banque?
Je choisirais l'abbé Pierre, ça pourrait peut-être faire réfléchir sur le sens de l'argent.
Absolument, oui, il y a le côté philosophe qui revient là. Alors, ça c'est une question difficile, le métier que vous n'auriez pas aimé faire avec tous les métiers que tu as occupés là.
Oui,
tu
mais
peux, y en a tu peux parler d'expérience.
Il y en a un sans hésiter. Je dis qu'il faut toujours prendre plaisir à ce qu'on fait, mais là j'aurais du mal. Le métier que je n'aimerais pas faire, c'est dresser des contraventions pour les voitures qui sont en stationnement interdit. Ouais. Pourquoi? Parce que c'est une vie de négation permanente. Il n'y a pas un moment où on peut respirer en disant ben, je vais faire plaisir à quelqu'un. Non, 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 là, vous êtes. On épingle sans arrêt. Je pense même que de retour chez lui ou chez elle le soir, la personne qui fait ça doit verbaliser si le repas n'est pas prêt à l'heure.
Non. Oui, c'est peut-être difficile de lâcher prise. Hein.
C'est assez difficile et moi je recommanderais beaucoup des reconversions ou des cycles. On donne des contraventions et puis après, ben, on va aider les gens chez eux.
Tout à fait, voilà. Tout à fait. L'équilibre. la plante, l'arbre ou l'animal dans lequel vous aimeriez être réincarné?
Alors j'ai choisi une plante pour une seule raison. Une plante, c'est un arbre. C'est un arbre qu'on ne connaît pas beaucoup, mais qui existe en particulier dans l'Utah, qui s'appelle le pando, qui est une sorte de grand peuplier. Dans cette réserve, dans l'Utah, il y en a 47. Et pourquoi je l'ai choisi? Parce que ils vivent en groupe, ils ont une racine unique, et surtout, ils peuvent vivre 800 000 ans.
800 000 ans.
Ah pardon, 80 000 ans.
80 000 ans.
Bon, non, à partir de 60, on est déjà dans l'éternité. Okay, oui,
alors... Merci, je prends ça comme un compliment. Si Dieu existe, qu'aimeriez-vous, après votre mort, l'entendre vous dire?
J'aimerais l'entendre me dire ceci. Eh ben, tu vois, j'existe. Viens voir les gens que tu n'as pas vus depuis si longtemps.
Oui, je pense que ça va être une réunion extraordinaire. Merci Jean-Pierre d'avoir pris le temps de venir nous rendre visite. C'était vraiment un grand bonheur de t'avoir ici. Puis j'espère qu'on recommencera.
Largement partagé.
Merci Jean-Pierre. À bientôt.
À bientôt.
Comme dernière chanson, tu as choisi Stomae.
Stomae,
excuse-moi pour prononciation.
Oui, j'ai choisi Stomae parce que c'est un jeune chanteur belge, tout à fait remarquable. Et j'ai choisi cette chanson qui est très connue parce que elle est vraiment le reflet d'une jeunesse adulte actuelle qui, malheureusement, a perdu beaucoup de valeurs auxquelles s'attacher. Il n'y a plus vraiment de valeurs religieuses de manière massive. Il n'y a plus de valeurs vraiment patriotiques. Il n'y a plus de valeurs sentimentales marquées. En revanche, il y a des passages difficiles en raison d'une économie difficile, en raison de confrontations migratoires, en raison de toutes choses. Et face à ce déferlement de problèmes ressentis par une grande partie de la jeunesse actuelle, la seule réponse est une réponse qui fait peine, c'est « alors on danse ».
Alors on danse.
Voilà.
Merci Jean-Pierre. À bientôt.
À bientôt.
Alors on danse. Te dit les thunes, qui dit argent dit dépense, et qui dit crédit dit créance, qui dit dette te dit huissier, et lui dit assis dans la merde, et qui dit amour dit les gosses, dit toujours et dit divorce, qui dit proche te dit deuil, car les problèmes ne viennent pas seuls, qui dit crise te dit monde, et dit famille dit tiers monde, et qui dit fatigue dit réveil, encore sourd de la veille, alors on sort pour oublier tous les problèmes, alors on danse. 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 Et là tu dis que c'est fini, car pire que ça, ce serait la mort. Quand tu crois enfin que tu t'en sors, quand y'en a plus, eh ben y'en a encore. Et ça c'est où les problèmes, les problèmes ou bien la musique, ça te prend les tripes, ça te prend la tête, et puis tu pries pour que ça s'arrête. Mais si ton corps c'est pas le ciel, alors tu bouges plus les oreilles, et là tu cries encore plus fort, mais ça persiste, alors on chante. Alors on chante. Alors on chante. Alors on chante.
Et puis seulement quand c'est fini, alors on danse. 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 Et ben y'en a encore.
Salut tout le monde, ici Wilfred Leboutier. Vous écoutez Choc FM au 105.1.
La vie est belle. Tu ne peux pas m'en convaincre autrement, la vie est belle. Tu le verrais bien si tu te laissais le temps, la vie est belle. Tu ne peux pas la néantir, la vie est belle. J'y crois à mourir. C'est une foire de petits papillons jaunes qui me l'a dit ce matin, longeant la digue à bon train. Ralentis, c'est dans l'instant qu'on sent la vie. Dans ce moment qu'on sent le bon vent. La vie est belle, tu ne peux pas m'en convaincre autrement. La vie est belle, tu le verrais bien si tu te laissais les temps. La vie est belle, tu ne peux pas la néantir. La vie est belle, mais je l'oublie. Maintes, maintes fois, je redrécis. Jamais le respire ne me trahit. Encore une fois, je m'épanouis. La vie est belle, tu ne peux pas m'en convaincre autrement. La vie est belle, tu le verrais bien si tu te laissais le temps. La vie est belle, tu ne peux pas la néantir. La vie est belle, j'y crois à moi. Petit papillon jaune.
S'est croisé un après-midi, je buvais une grosse bière au corps et Saint-Louis. J't'ai spoté coin du lutte, les hanches qui dansaient sur la brise. L'œil vif, le menton fier, une jambe tatouée japonaise. T'as possédé un soir ou une éternité. J't'aurais même amené manger, c'est un peu triste. On s'en reverra jamais. J'aurais dû t'aborder, mais j'suis trop gêné, pis j'suis pas parfait. Au moins, mais cheveux sont courts, les terres abondées. C'est vrai que ça fait longtemps que j'ai perdu ma robe. Toi t'es là, tu me regardes dans les yeux, tu me donnes le goût de tomber amoureux. Chanson, c'est aussi quétaine que des fleurs. T'es un peu plus sophiche, mais je rêve pas en couleur. Je te mérite pas, t'es trop fort. Moi, je suis un bon, qu'avec mes problèmes, je ferai pas un bon chum. Faisait longtemps j'étais parti, c'est bon de revenir à Montréal. Au printemps, la ville revit, c'est le party en salle. C'est vrai qu'il fait frais, c'est l'hiver, c'est corrompu, c'est le bordel. Y'a pas une ville dans le monde où ce que les filles sont aussi belles. Au mois de mai, les jeufs sont courts, les terres abondées. C'est vrai que ça fait longtemps que j'ai perdu ma robe. Toi t'es là, tu me regardes dans les yeux, tu me donnes le goût de tomber amoureux. Je t'ai croisé un soir de mai. Je buvais une grosse bière, perdue dans mes pensées. C'est vrai qu'il fait frais, c'est l'hiver, c'est corrompu, c'est le bordel. Y'a pas une ville dans le monde où ce que les filles sont aussi belles. Au mois de mai, les jupes sont courtes, les terrasses bondées. C'est vrai que ça fait longtemps que j'ai perdu ma robe. Toi t'es là, tu me regardes dans les yeux. Tu me donnes le goût de tomber. Ça m'a donné les jupes sans coups, les terrasses bondées. C'est vrai que ça fait longtemps que j'ai perdu ma robe. Toi t'es là, tu me regardes dans les yeux. Tu me donnes le goût de tomber amoureux.
Brûlé revenait, c'est sûr qu'il écouterait Choc 105.1.
La musique d'abord, Choc FM.
Pour tout savoir dans le monde de l'automobile,
avec de vrais spécialistes et connaisseurs,
voici Derrière le volant.net
avec Jean D.R.
Une présentation d'Automobile 2016, le magazine.
Cette semaine, on fait le bilan de la saison de Formule 1 2016. On fait aussi l'essai du nouveau Honda CR-V 2017. Bienvenue à Derrière le volant.
Savoir dans le monde de l'automobile.
Avec de vrais spécialistes et connaisseurs.
Voici Derrière le volant.net.
Avec Jean D.R.
Une présentation d'Automobile 2016, le magazine.
Cette semaine, on fait le bilan de la saison de Formule 1 2016. On fait aussi l'essai du nouveau Honda CR-V 2017. Bienvenue à Derrière le volant.
Nouveauté de la semaine.
Ah ben oui, bienvenue tout le monde. J'espère que vous avez passé une belle semaine. J'espère surtout que vous êtes fin prêt à affronter un hiver qui apparemment sera assez coriace, assez difficile. D'ailleurs, au moment où on enregistre cette émission, au moment où vous allez l'écouter, il est fort possible que vous ayez déjà goûté à votre première tempête de neige de l'hiver. Je trouve ça un peu tôt parce que je me souviens que l'an dernier, on avait joué au golf le 24 décembre. Je me serais bien payé un autre match cette année, mais malheureusement, je pense que ça sera pas le cas. On va débuter cette émission déjà sur les chapeaux de roue parce que, vous savez, Marc-André Gauthier sera là avec l'essai du nouveau CR-V 2017. Pierrot Fakin va nous parler de la remplaçante de la Volkswagen CC. Denis Duquet, Lui, il va nous entretenir sur l'IMSA. On va parler là aussi un peu de sport automobile, mais dans une époque tout à fait différente de la nôtre. Mais d'entrée de jeu, on va faire bien sûr le bilan de cette saison de Formule 1. Vous êtes probablement nombreux à avoir écouté le dernier Grand Prix de la saison, la fin de semaine dernière. Et pour en parler, qui de mieux que notre sommité nationale en sport automobile, notre ami Philippe Brassard. Salut Philippe.
Oui, salut Jacques.
Philippe, avant de passer au bilan, il est important de mentionner pour les amateurs de sport auto, le magazine Pôle Position, la nouvelle édition, est déjà en kiosque au moment où on se parle.
Oui, ben c'est ça, on a sorti la nouvelle édition, le dernier numéro 2016, là, parce qu'après ça, ça ira à janvier avec toutes les nouvelles 2017, mais beaucoup de bilans, justement, avec photos de peloton de la Coupe Nissan Micra en page couverture. On parle bien entendu aussi de Lance Stroll en Formule 1. Mm-hmm. Alors, donc, il y a beaucoup d'actualités reliées à ça, donc avec le rallye également. Donc, ça bouge quand même encore pas mal dans le monde du sport automobile, même si on s'en va vers la période plus des fêtes.
Oui, ben on s'en va vers la période des fêtes, mais tout de suite, au 1er janvier, on s'entend qu'on va commencer déjà à parler de la prochaine saison, parce que ça va quand même assez rapidement. La saison de Formule 1 va débuter au mois de mars.
Oui, la saison de Formule 1 va débuter à nouveau donc au mois de mars en Australie, le premier Grand Prix officiel de Lance Stroll, on le rappelle. Donc, c'est vrai que ça va être une saison encore assez... Certains disent qu'elle serait peut-être pas nécessairement dominée par Mercedes. J'en doute fortement. Je pense que la domination Mercedes devrait se poursuivre, comme on l'a vu en 2016, là, avec Lewis Hamilton et Nico Rosberg, finalement champion du monde après toutes ces tergiversations à Abu Dhabi.
Ça a été une saison 2016, toute Mercedes, on s'entend là-dessus, mais c'était encore la guéguerre entre les deux pilotes de la même équipe.
Ça a été la guerre, en effet, puis d'une certaine manière, je dirais que tant mieux, parce qu'on se souvient de l'époque de la domination Ferrari avec Michael Schumacher, puis des deuxièmes pilotes qui s'appelaient Eddie Irvine, Rubens Barrichello, Felipe Massa, qui n'avaient pas vraiment le droit de lui contester la victoire. Au moins, dans le cas de Mercedes, on revient un peu à l'époque, je dirais, Prost-Senna du temps de McLaren ou des luttes comme ça. C'est qu'au moins, on permet à ces deux pilotes de se battre pour la victoire et pour le titre mondial. C'est vrai que ça amène parfois à certains, on va dire, dérapages professionnels ou certaines fautes professionnelles, comme on l'a vu avec Lewis Hamilton là, à Abu Dhabi le week-end dernier, qui ralentit dans l'espoir que Nico Rosberg se retrouve à se faire accrocher par les pilotes en arrière de lui, ou en tout cas dépasser par les pilotes en arrière de lui.
Mais parlons-en justement de cette moi, en tout cas, je trouve ça anti-sportif. Moi, j'ai un peu de difficulté avec ce genre d'attitude en piste. Surtout, Hamilton a désobéi aux ordres de l'équipe qui lui disait, écoute, on veut que tu maintiennes ton temps, on veut que tu maintiennes ton rythme du début.
Ben, c'est exactement ça, Jacques. Dans le fond, c'est qu'il y a deux situations. C'est qu'il y a deux championnats en Formule 1, faut pas l'oublier. Il y a le championnat des manufacturiers, il y a le championnat des pilotes. Bon, le championnat des manufacturiers, ça fait longtemps qu'il était gagné par Mercedes. Là, il termine la saison avec 300 points, plus de 300 points d'avance sur Red Bull et encore bien plus sur Ferrari. Ouais. Mais ce que je veux dire par là, c'est que les pilotes, ils sont quand même employés d'un manufacturier automobile. Donc, c'est certain que si Mercedes, pour moi, l'attitude de Lewis Hamilton, elle était acceptable. Je dis pas qu'elle était nécessairement grandiose, là, qu'elle était honorable, mais elle était acceptable dès l'instant où Mercedes ne le ramenait pas dans le droit chemin. Je veux dire comme ça, ne lui disait pas, non, maintenant tu dois accélérer, ça on ne l'accepte pas. Dès l'instant où il n'avait pas ce genre de message, on peut se dire que le titre des pilotes est tellement important en Formule 1, parce que c'est quand même le plus médiatisé des deux championnats. Hein. Certains, on se souvient pas nécessairement qui est champion manufacturier, mais on se souvient toujours qui est champion pilote, bien entendu. Mm-hmm. Et donc, je dirais que tant que Mercedes ne mettait pas un frein à ça, ne lui interdisait pas de fonctionner comme ça, j'ai envie de dire que tous les coups sont permis dès l'instant où on n'accroche pas à l'autre pilote, on ne provoque pas un accident. Donc, je dirais que cette tactique-là, Lewis Hamilton, il ne l'a pas inventée. Hein. Moi, je l'ai vu dans un paquet de championnats où, justement, on ralentit volontairement dans l'espoir que le pilote en arrière perde des positions. C'est vieux comme le sport automobile ou à peu près. Mais c'est sûr que dès l'instant où ça se passe entre coéquipiers et que le manufacturier, lui, dit « Bon, mais là, vous arrêtez de jouer à ça », il faut respecter cet ordre-là parce que ce sont aussi des employés de ce manufacturier. Et ça, c'est ce que Lewis Hamilton n'a pas fait. Et pour moi, plus que la manœuvre, qu'il ait commencé à le faire, cette manœuvre-là, je peux accepter parce que le but, c'était sa seule chance à ce moment-là, dans le fond, de pouvoir être champion du monde, que Rosberg perd des positions. Mais dès l'instant où Mercedes dit non, là, il faut le respecter. Et ça, le fait de ne pas l'avoir fait, pour moi, c'est ça qui est condamnable.
Mais honnêtement, je pense que je suis pas tout à fait d'accord avec toi parce que ce genre de manœuvre-là, Je comprends qu'ils ont le droit de le faire tant aussi longtemps que le constructeur ne l'arrête pas. Mais chose est certaine, c'est qu'on vit quand même dans la même équipe et vis-à-vis un concurrent qui est ton coéquipier. Moi, je sais pertinemment qu'à l'époque de Gilles Villeneuve, c'est ce genre d'attitude-là. Gilles Villeneuve aurait été hors de lui après la course, même s'il avait gagné le championnat du monde. Je sais pas. Moi, j'ai un peu de difficulté à comprendre ce genre d'attitude-là de la part de Lewis Hamilton. Déjà que je ne l'aime pas au départ. Alors là, il y a rien fait pour me réconcilier avec lui, ça c'est sûr de ça.
Maintenant, moi je dirais que c'est un mouvement, c'est un geste qui a été fait, comme je disais tout à l'heure, des tas de fois. Ouais. Mais je suis pas en train de dire non plus que c'est le geste le plus sportif au monde. Je dis simplement qu'à ce niveau-là de compétition, il faut s'attendre. Michael Schumacher a dû le faire. J'en ai pas de souvenir en tête. Je sais que Alain Prost l'a fait. Voilà, c'est arrivé un paquet de pilotes. Nelson Piquet, je me souviens très clairement qu'il l'a fait du temps haut de sa rivalité avec Nigel Mansell chez Williams. Donc voilà, c'est pas le premier à avoir fait ça, Lewis Hamilton. Mais tu as tout à fait raison de dire que, en théorie, ça ne se fait pas entre coéquipiers. Sauf que là, on est dans une situation où les deux peuvent être champions du monde tous les deux. Ils savent qu'il n'y a pas un autre pilote d'une autre écurie qui peut être champion du monde. Donc je dirais que c'est le genre de choses auxquelles il faut s'attendre. Je suis pas en train de dire que c'est un beau geste, loin de là.
Mais
c'est le genre de choses où on est dans une situation un petit peu où tous les coups sont permis.
Je comprends.
Jusqu'à temps que le manufacturier dise non, là, ça suffit. Et là, il faut le respecter. Ça, c'est vraiment pour moi l'élément le plus impardonnable, c'est de ne pas avoir respecté la consigne d'équipe.
Est-ce que tu penses, parce que là, il y a des rumeurs qui circulent, que Mercedes va sanctionner Lewis Hamilton?
Je ne pense pas. Je pense que d'une certaine manière, pour Mercedes, c'est vrai que malgré tout, le titre, il est acquis. Nico Rosberg est champion du monde, Lewis Hamilton est deuxième. C'est une saison à peu près parfaite, encore une fois, pour Mercedes. Je crois que d'une certaine manière, Mercedes a bien compris aussi le fait que si ils étaient dans une situation de domination, comme à l'époque de Ferrari, justement, parce que ce serait très facile. Ils pourraient dire demain matin à Lewis Hamilton, on te met dehors et puis on va prendre par exemple Pascal Wehrlein, le jeune pilote allemand qui a roulé chez Manor, qui vient du DTM, qui est leur protégé, ou d'autres pilotes qui pourraient jouer le rôle de numéro 2. Mais ce n'est pas leur but pour l'instant. Le but, c'est vraiment d'avoir deux numéro 1. Alors, c'est vrai qu'il faut vivre avec ce genre de risque. Je pense que tant que, c'est un petit peu comme je le disais tout à l'heure à l'époque de Prost Senna, par exemple, tant qu'il n'y en a pas un des deux qui dit « moi, je quitte pour aller dans une autre équipe », si demain matin ou à la fin 2017, Lewis Hamilton ou Nico Rosberg dit « je m'en vais chez Ferrari », par exemple, bon, là, peut-être que Mercedes va réviser un petit peu son jugement et va dire « on a un vrai premier pilote ». Mais pour le moment, ils ne sont pas dans une position vraiment de sanctionner ou d'imposer un premier pilote et un deuxième pilote. Ça, c'est clair.
Bon. Mais pendant ce temps-là, il reste que malgré tout, on va passer... l'hiver est quand même relativement long pour des passionnés comme toi et moi. On a toujours hâte que ça recommence. Mais pendant cette période-là aussi, il y aura on va jouer à la chaise musicale encore une fois cette année, probablement. Surtout que des pilotes comme Hülkenberg qui ont décidé de quitter Force India pour se retrouver maintenant chez Renault. Qu'est-ce que tu prévois comme coup d'éclat, si tu veux, en Formule 1 pendant l'hiver? Quel sera le pilote qui va se démarquer? Parce que, voici l'arrivée d'eux. Parce que là, Jenson Button est parti aussi, là.
Oui, tout à fait. Felipe Massa, Jenson Button. Ça, c'est des pilotes. En fait, pour le moment, on est dans une situation où c'est assez clair, c'est que il reste juste deux places à attribuer pour la prochaine saison de Formule 1. Mm-hmm. Une chez Manor, même si Pascal Wehrlein n'est pas confirmé, mais on s'attend à ce qu'il le soit. Ouais. Donc, il y aurait le deuxième volant là, et puis chez Sauber, où Marcus Ericsson, le pilote suédois, est confirmé, et on n'a pas pour le moment de nouvelles quant au deuxième volant. Mais tous les autres pilotes sont confirmés après ça. Donc, c'est vrai qu'on est dans une situation où ça va être assez tranquille, mais chacun va affûter ses armes pour 2017. Moi, je pense que il y a des pilotes comme peut-être le Belge Stoffel Vandoorne chez McLaren, qui avait remplacé Alonso lors d'un Grand Prix, qui avait tout de suite marqué un point. Ouais. C'est le champion GP2 de l'année dernière. C'est un excellent metteur au point. Et c'est pas juste un très bon jeune pilote, c'est aussi un excellent metteur au point. Et ça, c'est quelque chose justement qui va aider McLaren, même si on sait tous que Button et Alonso l'été était aussi, mais ce que je veux dire, c'est que on peut s'attendre peut-être à ce que ça progresse quand même un petit peu l'écurie McLaren Honda. Je m'attends à ce que Renault en effet progresse avec Nico Hülkenberg. J'avoue que je suis resté très très surpris qu'on garde Jolyon Palmer, parce que pour moi il n'a rien démontré cette année-ci. C'est un petit peu, je ne sais pas, est-ce que c'est parce que c'est le marché de la Grande-Bretagne que Renault voulait peut-être garder au travers de lui. On sait que au niveau de la Grande-Bretagne, les manufacturiers sont assez bien impliqués. Souvent ils imposent des pilotes, que ce soit en endurance, que ce soit en IndyCar ou même parfois en Formule 1, qui sont capables comme ça de faire comprendre aux manufacturiers que c'est important de garder un pilote de leur nationalité. Et puis, j'ai envie de dire, moi, je m'attends à des bonnes choses de l'écurie Williams.
Ouais.
Pourquoi? Parce que c'est vrai que Lance Stroll arrive là, il n'achète pas seulement son volant, mais il amène beaucoup de budget à l'écurie. Ouais. Et ça, je dirais que qu'on dise ce qu'on veut du père de Lance Stroll, oui, il y a beaucoup d'argent, mais il y a toujours quelqu'un qui paye dans la vie. Et donc, dans ce cas-ci, le fait que le père est passionné de sport automobile plutôt que de golf ou de tennis, ben, ça fait en sorte que au moins, il a poussé son fils vers le sport automobile. Mais Lance, il n'est pas devenu champion de Formule 3 par hasard. Et je pense qu'il a à la fois beaucoup d'argent et beaucoup de talent. Et ça, c'est les deux qualités que ça prend pour réussir en sport automobile aujourd'hui.
Tout à fait.
Faut pas se le cacher.
Tout à fait.
Alors, je crois que le fait, les budgets qu'on a entendus, que Lance amenait, on est parfois à 10 fois ce que certains pilotes ont amené pour obtenir un volant en Formule 1 dans les dernières années. Et ça, cet argent-là, il va être dépensé par Williams pour pouvoir justement travailler très tôt, engager du nouveau personnel, des ingénieurs encore plus compétents pour développer la voiture 2017. Faut pas se tromper. Pourquoi la fin de saison 2016 de Williams a été aussi calamiteuse? C'est